est midi sur Radio Orient, bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. Au moins 70 migrants disparus en mer au large des côtes libyennes, ils sont présumés décédés selon l'Organisation internationale des migrations. Le 60e anniversaire des accords d'Évian qui ont mis fin à la colonisation de l'Algérie, à cette occasion le président Macron présidera une cérémonie à l'Élysée. Dans ce journal, un rappel de cette page d'histoire avec l'historien Gilles Manceron, Mohamed Kaki, président de l'association mémorielle Les Oranges, nous dira ce qu'il attend du chef de l'État. En Ukraine, des missiles russes ont touché pour la première fois la ville de Lviv, près de la frontière polonaise. Enfin, Emmanuel Macron promet de lutter contre le non-recours aux droits sociaux grâce au versement automatique des aides. Candidat à sa réélection, il veut aussi réformer le RSA. Au moins 70 migrants sont portés disparus au large des côtes libyennes. Ils sont présumés noyés selon l'Organisation internationale des migrations. Au total, 215 migrants sont morts ou portés disparus en Méditerranée depuis le début de l'année. Cela fait 60 ans aujourd'hui, le 18 mars 1962 a eu lieu la signature des accords d'Évian entre les représentants de la République française et ceux du FLN et du gouvernement provisoire de la République algérienne. Ces accords mettaient fin officiellement à 132 années de colonisation française en Algérie et à 7 années et 5 mois de guerre. Gros plan sur cette page de l'histoire avec Gilles Manceron, historien et spécialiste de la période coloniale.
C'est une étape importante et qui avait le mérite de mettre fin à une guerre meurtrière. C'est par centaines de milliers qu'on compte les victimes de cette guerre, peut-être un demi-million ou quelque chose qui approche, surtout des victimes algériennes, mais il y a eu aussi des Européens. Il y a eu quelques dizaines de milliers, 20 000 au moins de soldats français, etc. Donc c'était une guerre meurtrière et il fallait y mettre un terme. Et quand le général de Gaulle a opéré une sorte de virage dans sa politique, parce qu'il était très ambigu en 58 quand il est arrivé au pouvoir sur la solution de ce que l'on appelait le problème algérien, il a ensuite annoncé qu'il était favorable à une autodétermination, puis à même à une république algérienne. Et il a ouvert des négociations et le GPRA, le gouvernement provisoire algérien, a répondu positivement. Il s'agissait de mettre fin à une guerre meurtrière avant tout.
Qui ont été les principaux acteurs de ces négociations?
Alors, côté algérien, ça a été une délégation du GPRA qui a été dirigée, présidée par Belkacem Krim, qui était un maquisard de la première heure et même qui avait commencé à monter au maquis, si je puis dire, avant même le 1er novembre. Donc, c'est vraiment un historique de la lutte d'indépendance nationale, et c'est lui qui présidait cette délégation, où figuraient d'autres représentants du GPRA, spécialistes dans certains domaines économiques, diplomatiques ou autres, ils avaient aussi eu recours à des experts, quelqu'un comme Mohamed Harbi, par exemple, qui avait été un militant de la Fédération de France du FLN et du FLN en général, eh bien, il a été sollicité comme expert en raison de ses études universitaires. Quoi.
Côté français, quelles étaient les personnalités qui ont mené ces négociations?
Côté français, ça n'a pas été conduit à l'initiative du Premier ministre. Ces négociations ont été menées par une délégation que le général de Gaulle avait nommée et à la tête de laquelle se trouvait Louis Jox, qui était en accord avec lui, avec le chef de l'État, sur l'issue sous forme d'indépendance accordée, si je puis dire, à l'Algérie et accordée au GPRA. Donc, ce n'était pas la position du Premier ministre. C'est ça qui compliquait la tenue de ces négociations et qui les a même prolongées, parce que Michel Debré, le Premier ministre, n'était pas d'accord avec cette issue. Donc il a mis tous les bâtons dans les roues qu'il a pu à la conduite de ces négociations.
Et les violences se sont poursuivies pendant plusieurs mois après la signature de ces accords.
Oui, ces accords ont été refusés par l'OAS, l'organisation armée secrète, donc constituée début 61, qui a été présente au moment du putsch des généraux d'avril 61 et qui est hostile à l'indépendance de l'Algérie. Et elle a un appui d'une grande partie, pas la totalité des Européens d'Algérie, loin de là, mais de la majorité d'entre eux. Et l'OAS se livre à des attentats contre tous ceux qu'elle considérait comme des indépendantistes ou bien des traîtres, entre guillemets, parce qu'ils étaient qualifiés de gaullistes, qualifiés de communistes, y compris quand c'était des Européens d'Algérie, originaires de familles de longue date présentes. Donc cette OAS a fait une guerre contre les accords d'Évian, et y compris qui l'a amené à s'en prendre aux soldats français, considérés comme des ennemis.
La commémoration de ce 60e anniversaire, c'est un moment délicat pour l'exécutif en pleine campagne présidentielle, connaissant les différentes positions des candidats.
En France, oui. Alors, le président de la République a affirmé son intention de dire la vérité, d'ouvrir les archives et de mettre fin au déni sur cette période de la période coloniale et de la guerre d'Algérie. Mais cela ne fait pas l'unanimité, y compris dans son propre camp, hein, mais par rapport notamment aux gens qui sont plutôt ralliés venant de la droite française ou même venant de la gauche, comme certains partagent aussi cette non-volonté de mettre fin au déni et de dire les choses sur la période coloniale. Donc il est un petit peu gêné par son propre camp et par l'importance de l'extrême droite dans l'opinion française, hein, puisque l'extrême droite, avec ses deux chefs de file bien connus, représente un taux d'intention de vote que l'extrême droite ne rassemble nulle part en Europe. Hein. Donc il y a une extrême droite française qui est nostalgique de la colonisation, hein, et qui fait partie du paysage de ce pays.
L'historien Gilles Manceron, interrogé par François-Xavier de Calonne. Emmanuel Macron va commémorer demain à l'Élysée ce 60e anniversaire des accords d'Évian. La cérémonie réunira des personnalités liées à la guerre d'Algérie. Mohamed Kaki, fondateur de l'association mémorielle Les Oranges, espère qu'à cette occasion, Emmanuel Macron aura une parole forte pour condamner les crimes commis par la France pendant la colonisation. On l'écoute.
Nous attendons beaucoup de choses du président de la République, qu'il s'exprime justement à l'occasion de ce 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, à l'occasion notamment aussi du 19 mars, qui est un cessez-le-feu entre le gouvernement provisoire algérien à l'époque, avec Krim Belkacem, et puis Louis Jox à l'époque, le 18 mars, une date importante, puisque le lendemain, ça a été appliqué, donc le 19 mars, le cessez-le-feu. Mais véritable indépendance des Algériens, ça a été le 5 juillet, le 5 juillet 1962. Alors, pour autant, il y a beaucoup de choses qui sont à voir. Je pense que le président de la République, la première chose qu'il puisse faire, c'est reconnaître les crimes d'État. Les crimes d'État en Algérie, la condamnation de l'OAS, hein, l'organisation armée secrète, qui a été une organisation terroriste, qui a terrorisé les gens entre, d'ailleurs, le 19 mars et l'indépendance réelle, c'est-à-dire le 5 juillet. C'est une organisation véritablement terroriste qu'il faut la condamner. Mais il faut que le président de la République, Emmanuel Macron, reconnaisse tous les crimes d'État, les crimes contre l'humanité, comme il l'avait dit lui-même lorsqu'il était candidat à l'époque. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il s'honorerait, le président de la République, à la fin de ce mandat et au début, peut-être pour lui, d'un autre mandat. En tout cas, ça sera apprécié par la communauté algérienne de reconnaître réellement tous les crimes d'État. Le 8 mai 1945, ça a été une horreur, et tous les crimes en Algérie, pour que, je dirais, on puisse continuer à travailler ensemble dans la sérénité, que les deux peuples, le peuple français et le peuple algérien, puissent continuer à travailler ensemble. Et pour cela, eh bien, il faut, par exemple, laisser la place aux Algériens. Par exemple, à l'occasion de ce 60e anniversaire de l'indépendance, je vois, par exemple, qu'il y a eu des films, des documentaires auxquels les Algériens ne sont pas associés. Et moi, je regrette, par exemple, qu'on ne nous ait pas invités pour l'ensemble de ces documentaires, ni des historiens algériens du côté de l'Algérie, mais aussi les acteurs ici d'origine algérienne. Et que on donne un seul regard, et je pense que la richesse, c'est la pluralité des regards, et que toutes les mémoires, elles ont le droit d'être connues par l'ensemble des Français, pour dire une chose simple, c'est que cette histoire de l'histoire coloniale, l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est l'histoire de France. Et l'ensemble des Français doivent, je dirais, la connaître. Il ne faut pas qu'ils en soient amputés. Et donc, nous attendons beaucoup du président de la République. J'espère qu'il aura le courage, cette fois-ci, d'aller jusqu'au bout de sa démarche, parce qu'il a fait quand même quelques avancées. Hein, mais malheureusement, à chaque fois, il a fait un demi-pas, comme sur le pont de Beson, pour le 17 octobre 1961. Il aurait dû prononcer un discours beaucoup plus clair et à la nation, et en reconnaissant ce crime d'État du 17 octobre 1961, qui a été dévastateur pour nos parents et pour nous-mêmes aujourd'hui encore, puisque cette affaire n'est pas finie, parce qu'elle alimente le racisme. Je pense que le président de la République gagnerait à reconnaître cette histoire et qu'elle soit écrite une bonne fois pour toutes, diffusée dans les manuels scolaires pour que les enfants, dans les collèges, dans les lycées, puissent la connaître, et de manière à ce qu'on puisse passer à autre chose. Mais pour qu'on puisse passer à autre chose, pour qu'on puisse tourner la page, comme on dit, encore faut-il l'écrire.
Mohamed Kaki, fondateur de l'association Les Oranges. Des missiles russes ont frappé ce vendredi le quartier de l'aéroport de Lviv, grande ville ukrainienne située près de la frontière polonaise. Une usine a été détruite. Jusqu'à présent, la ville était épargnée par les combats. Emmanuel Macron a proposé une réforme du RSA prévoyant l'obligation de consacrer 15 à 20 heures d'activité par semaine, une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. Le président s'est engagé, s'il est réélu, à faire verser les aides sociales à la source de manière automatique. Lors d'une conférence de presse, il a décliné son programme plein emploi d'ici 5 ans, indépendance énergétique et allongement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. L'invité de rencontre ce vendredi à 16h est Maître Shemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il publie « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République » aux éditions Kairo, extrait de cette émission.
C'est une chance inouïe pour moi qui ait travaillé aux côtés de Dali Boubacar pendant plus de 20 ans et d'être aujourd'hui recteur de la Grande Mosquée de Paris est à la fois un grand honneur, mais en même temps une très grande responsabilité. Parce qu'effectivement, je ne dois pas aujourd'hui faillir à ma mission. Je suis le 7e recteur et chaque recteur, comme je le dis, a joué un rôle important. A joué un rôle de premier plan souvent, dans des moments extrêmement difficiles, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale pour Abdul Ben Rabrit, que ce soit pour Hamza Boubacar pendant la guerre des six jours en 67, pendant, je dirais, les différentes missions qui ont été données à ces recteurs, il y a eu une constante. C'est l'islam du juste milieu, l'islam de la fraternité. Cet islam que aujourd'hui nous avons tous dans notre cœur, et c'est pour cela que je considère que cette mosquée, comme je le dis, à travers son esthétique, mais à travers également sa position, elle est en plein quartier latin, elle est juste à côté du Jardin des Plantes. Vous imaginez cette position géographique qui est incroyable. Et donc pour cela, il faut qu'on soit à la hauteur de ces engagements. Mais en même temps, au-delà de ce lieu de spiritualité, c'est un lieu de visite tout simplement. Et moi, je suis extrêmement ému lorsque je vois des non-musulmans passer la porte de la Grande Mosquée de Paris pour venir se promener dans les jardins. Vous savez, j'ai une image que je me permettrai de partager avec vos auditeurs. C'est on est en plein confinement. Et donc, je vois de temps en temps des personnes qui viennent non-musulmanes et qui sont là en train de se promener dans le jardin. Donc très discrètement, j'ai mis quelques chaises par-ci, par-là pour permettre à des personnes plus âgées de pouvoir s'asseoir et de profiter, je dirais, de ce beau jardin. Et un jour, je vois une dame d'un certain âge entrer avec sous le bras le quotidien Le Monde et elle s'installe et elle va se mettre à lire Le Monde dans le jardin. Et je demande au gardien de m'avertir au moment de sa sortie, et puis une heure et quart après, il vient m'appeler en me disant « Tiens, la dame s'en va ». Et je suis sorti, j'ai vu dans le visage de cette femme, cette sérénité, qui à travers la lecture du monde, mais en même temps par rapport à toute cette ambiance, avec des arbres, des fleurs, des oiseaux, qui donnent cette ambiance, et j'étais rasséneré en me disant que cette mosquée, en fait, elle permet à des non-musulmans de venir chercher la quiétude, et c'est ça qui est un message pour moi exceptionnel.
Maître Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, est l'invité de rencontre ce vendredi à 16h. Il publie « N'en déplaise à certains, nous sommes les enfants de la République » aux éditions Kairo. Rediffusion de cette émission samedi à 20h et dimanche à 21h. L'invité de Pluriel à 19h et 23h ce soir sera Pierre Luce, ancien référent départemental de La République En Marche dans les Yvelines, et militant des jeunes avec Macron. Cette édition est terminée à 15h et 17h30. Vous retrouverez François-Xavier de Calonne. Excellente journée à tous.